BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit jour après jour. Bienvenue à tous, des contemporains du futur. Voilà ce que vous êtes grâce aux pros des cryptos. Ils nous rejoignent, nos deux experts, nos deux pros des cryptos du vendredi. Claire Balva, pour De Bloc, est avec nous. Elle nous rejoint ici en plateau, ainsi qu'Owen. Owen Simonin, le fondateur de sa chaîne YouTube, Asher, et CEO de Meria. Ravi de vous accueillir tous les deux dans une période assez historique quand même pour des gens en général et pour l'univers crypto en particulier. On va bien sûr dérouler cette semaine extrêmement riche pour l'univers et surtout vous apporter à vous tous pour la suite ce fameux coup d'avance qui permet de faire la différence. Il va aussi nous y aider. Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Analyste technique indépendant. Alors Vincent, c'est vrai, on a vu les cryptos s'envoler de nouveaux records tous les jours sur le Bitcoin ces derniers jours. Est-ce qu'on peut envisager que le Bitcoin atteigne cette fameuse cible des 100 000 dollars avant Noël?
Oui, alors depuis quelques séances, Bitcoin marque un peu le pas entre 85 et 90 000 dollars, mais je vais vous répondre directement oui. C'est très crédible d'aller chercher cette cible des 100 000 dollars. Simplement, si vous regardez du côté des données dites de saisonnalité, donc l'approche statistique de Bitcoin, tout simplement, la performance moyenne en novembre depuis 14 ans, la performance moyenne au quatrième trimestre depuis 14 ans, eh bien là aussi, Bitcoin, au prix actuel, autour des 90 000 dollars, est à peu près à deux tiers du chemin de sa moyenne haute de novembre, la moitié du chemin du quatrième trimestre. Donc voilà, simplement, si Bitcoin reste inscrit dans sa moyenne, ni plus ni moins, les 100 000 dollars, c'est le seuil qui peut être atteint d'ici la fin du mois de décembre, peut-être même avant.
Bon, l'analyse technique permet d'y voir clair aussi sur la tendance très court terme. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'on est monté, oui. Puis là, ça se détend un tout petit peu, ça repart un peu à la baisse. À très court terme, comment est-ce que vous voyez évoluer le Bitcoin?
Oui, bah écoutez, poursuite d'un trading range entre 85 et 90 000 dollars. Il y a une chose intéressante à noter, c'est en tout début de semaine, un gap haussier qui a été ouvert sur le contrat futur Bitcoin de la bourse de Chicago, le CME, là où se trouve la haute finance américaine. Il n'y a vraiment aucun doute sur la tendance haussière de fond tant qu'on est au-dessus de ces 81 000 dollars. Donc voilà, petite pause de mi-novembre. Et moi, j'envisage, là aussi, en regardant du côté des cycles temporels, une poussée de fin de mois, début décembre. Vous allez voir que les 100 000 dollars, on les aura bien avant Noël.
Bon, évidemment, on verra. Et tout cela n'est pas un conseil en investissement. Mais voilà. Des perspectives peut-être techniques également positives et encourageantes sur Bitcoin. Alors justement, on va mesurer le potentiel à venir de l'ensemble de cet écosystème crypto avec l'arrivée de Donald Trump, son administration très crypto-friendly. Le Bitcoin, qui est devenu le septième plus gros asset du monde, c'est au menu de ces pros des cryptos. On va en parler effectivement. Plus lourd que l'argent, plus lourd aussi le Bitcoin désormais que Saudi Aramco. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Et puis le retail qui est de retour. Retail is coming. Vous connaissez cet adage, winter is coming. Non, la série Tales, c'est le printemps des cryptos qui peut-être va s'éterniser, en tout cas peut-être se prolonger. Coinbase est devenue cette semaine, figurez-vous, la deuxième application financière la plus recherchée sur l'App Store. Eh oui, c'était la 33e il y a 15 jours, c'est désormais la deuxième appli financière la plus recherchée sur l'App Store, Coinbase. Et puis on parlera bien sûr aussi d'Elon Musk. Est-ce qu'on va voir la création d'ETF Dogecoin? Tiens, cette question qu'on n'aurait jamais pensé se poser. Mais comme l'impensable devient le réel et la réalité, c'est vrai là-bas aux États-Unis, Elon Musk qui arrive à Washington, qui fera partie de l'administration. Est-ce que tout ne devient pas d'un seul coup imaginable aussi dans l'univers crypto? On posera cette question. C'est vos pros des cryptos. Chaque vendredi, votre machine à concentrer l'essentiel. Elle s'enclenche, cette machine, tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec cette semaine Owen Simonin pour Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Et votre chaîne YouTube Asher. Alors vous êtes le YouTuber francophone le plus suivi au monde. Voilà. Là le Bitcoin bat des records jour après jour. Combien d'abonnés?
J'ai dépassé les 700 000 et j'ai fait plus d'abonnés en 7 jours qu'en un trimestre. Ouf. Même un peu plus.
Waouh, on va en parler. Alors voilà, comment est-ce qu'on s'adresse à tous ces néophytes dans l'univers crypto? On pourra aussi en parler dans ces pros des cryptos, parce qu'il y a beaucoup de néophytes là qui débarquent d'un coup, et il faut aussi leur parler avec beaucoup de pédagogie, les conseils de prudence toujours aussi dans un univers qui reste très volatile. Claire Balva aussi est avec nous pour De Bloc. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Même chose, c'est l'euphorie en ce moment dans l'univers crypto. On l'avait prévu, finalement tout est normal. Comment est-ce qu'on voit les choses?
Ah, on le sentait venir, mais il y a quand même beaucoup d'euphorie, oui, bien sûr.
Alors justement, est-ce que tout cela repose quand même sur des fondamentaux? Parce que le Bitcoin bat des records, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a plein de cryptos qui s'envolent. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, plus pro-crypto qu'il y a quelques années, quand il avait été élu une première fois, est-ce que dans son programme, dans ses promesses, dans ses propos, il y a de quoi véritablement justifier les récents records et peut-être encore d'autres records à venir, Claire?
En fait, ce qu'il justifie, c'est même pas le fond des promesses en elles-mêmes. C'est déjà simplement le fait qu'il ait fait des promesses. Parce que ça montre qu'il a compris qu'il y avait un électorat aux États-Unis qui attendait des choses sur le sujet crypto. C'est la première fois que les cryptos sont un sujet politique pour un grand État. Et donc ça, en soi, c'est très positif et ça justifie une hausse de Bitcoin et de l'ensemble des cryptos. Et ce, même si les promesses ne sont pas encore réalisées. Dans les promesses qu'il a faites, il y a quand même des symboles qui sont assez forts. Hein, quand on parle de réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, c'est même pas le fait que les États-Unis ne vendent plus de Bitcoin qui fait monter les cours. C'est le simple symbole en fait qu'il y a derrière cette promesse-là qui est très fort parce que ça fait de Bitcoin un sujet politique et ça place Bitcoin comme actif légitime au niveau mondial comme réserve de valeur.
Oui, oui. Et l'un des arguments d'ailleurs pour faire du Bitcoin une réserve de valeur et une réserve stratégique pour les États-Unis, c'est essayer grâce au Bitcoin de rendre les États-Unis plus indépendant de la réserve fédérale américaine, plus indépendant de la Fed. Oh, c'est un drôle de cheminement intellectuel, mais ça fait partie de son argumentaire, effectivement. Est-ce qu'on a une idée de la blockchain qui pourrait le plus profiter de l'élection de Donald Trump ou des annonces, des promesses de campagne, Owen?
Naturellement, quand on pense au prix, on voit que c'est Bitcoin qui tire tout le marché vers la hausse et on voit que c'est lui qui capte le gros de la valeur en conservant une dominance assez folle. Après, quand on prend du recul, ça pourrait être favorable à toute la finance décentralisée. Cette finance décentralisée, c'est pas juste une tendance. Quand on parle de la DeFi, c'est créé par Ethereum. C'est cette blockchain qui fournit le plus d'autres écosystèmes. Et d'autres blockchains se créent, des layers 2 autour d'Ether. Donc naturellement, on pourrait penser que les États-Unis qui deviennent beaucoup plus favorables et à ce moment-là, des représentants qui s'intéressent beaucoup plus au développement de cet écosystème et vont naturellement permettre un développement plus sain et plus rapide, pourquoi pas, de la finance décentralisée, ça pourrait permettre à Ether, mais également toutes les autres crypto-monnaies qui proposent leur propre réseau et qui proposent de la finance décentralisée, de se valoriser. Maintenant, encore une fois, il y a une différence entre une blockchain qui va pouvoir se développer et proposer des fonctions et la crypto-monnaie qui représente la blockchain, le coin, comme l'Ether, par exemple, qui va se valoriser ou non. Mm-hmm. Ça, il n'y a que le temps qui nous le dira.
Claire, pour vous, il y a une blockchain comme ça qui devrait particulièrement profiter du nouvel environnement américain?
Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont en profiter parce que ce qui freinait le développement aussi de certains protocoles aux États-Unis, c'était toute cette bataille juridique autour de la qualification des crypto-monnaies entre security et commodities. Et donc, si la plupart des crypto-monnaies sont d'un coup beaucoup plus sereines dans leur qualification, ça devrait leur permettre d'être listés plus facilement sur des plateformes et donc d'avoir plus de demandes aussi.
Et alors, petite parenthèse quand même, on va continuer de parler de l'impact de l'élection de Donald Trump, mais petite parenthèse, il y a une grosse mise à jour à venir sur, vous en parliez à l'instant, sur Ethereum.
Tout à fait.
Elle va changer quoi, cette mise à jour?
Alors, elle va changer énormément de choses, qui particulièrement des choses techniques en termes de scalabilité et de sécurité. C'est ce qu'on appelle des EIP, Ethereum Improvement Proposal. Donc bon, pour rentrer dans le détail, il nous faudrait une émission complète. Mais pour faire très simple, et l'un des points les plus attendus, c'est qu'il y a eu des récentes mises à jour sur le réseau Ether qui ont facilité les connexions et les échanges d'informations avec les Layer 2, qui sont des secondes couches basées sur Ether. Ces secondes couches en ont énormément profité, réduisant ainsi les frais qu'elles payaient à la chaîne principale, augmentant ainsi leur scalabilité, mais ça a un petit peu retiré de la valeur sur ce réseau principal. Là, en l'occurrence, le réseau Ethereum va en profiter dans le sens où ils vont réduire la vitesse, entre guillemets, d'émission, augmenter la vitesse d'émission des blocs. Pour faire simple, on va passer de 12 secondes par bloc à 4 secondes en traitement. Donc en termes de rapidité, c'est 3 fois plus rapide. Et même en termes de validation définitive de la transaction, on disait qu'il fallait attendre 32 blocs pour que la transaction soit écrite dans le marbre et immuable. On va passer à 3 blocs et des blocs de 4 secondes au lieu de 12. Donc ça va améliorer beaucoup de choses. Ça va permettre plus simplement également l'incrémentation de fonctionnalités pour la confidentialité qui vont permettre de toujours respecter les règles de la blockchain sans avoir à communiquer autant d'informations qu'avant. Donc plein de possibilités qui, pour le coup, sont des incrémentations très attendues et qui vont améliorer encore les capacités du réseau Ether.
Bon, c'est intéressant. Vous êtes un certain nombre à découvrir peut-être cet univers crypto avec la hausse du Bitcoin notamment, mais dans cet univers, il y en a plein des cryptos et Bitcoin a son dauphin, c'est l'Ether et la blockchain Ethereum qui, effectivement, se développe. Il y a beaucoup d'annonces de développement très régulier et donc cette nouvelle mise à jour à venir dans combien de temps d'ailleurs?
Pour le coup, c'est toujours très très flou avec Ether, mais c'est attendu courant 2025.
Oui, c'est déjà la 5e saison des pros des cryptos, hein, voilà. Alors moi j'ai vécu un seul hiver crypto, mais vous en avez vécu plusieurs. Ça doit quand même vous faire du bien et plaisir de voir le Bitcoin battre des records là, Owen.
Ouais.
Quand même.
On passe par des chemins qui sont toujours le. On sait que ça viendra, mais et pourquoi ça serait pourquoi ce serait certain? Pourquoi est-ce que ce serait pas différent cette fois-ci? Parce que 2017, 2021, 2024, j'ai toujours été convaincu, j'ai jamais été certain, moi. Donc on est tout le temps dans ce cycle où on se dit oui, et quand ça arrivera, comment? Et si ça arrive pas, bah on est skin in the game, je pense qu'on peut le dire, que ce soit dans nos vies, dans notre travail, dans ce qu'on fait. Et surtout, quand ça arrive, on se dit oh, je n'avais pas assez.
Ah oui,
systématiquement.
Bien sûr, toujours. Et puis on retrouve quand même des choses qu'on a vues dans les précédents cycles, même si chaque cycle est un peu différent. On retrouve le même intérêt des médias, les mêmes questions de nos proches, les mêmes questions de nos amis qui nous disent à chaque fois est-ce que c'est trop tard, est-ce que j'aurais dû m'y mettre. Et donc on a l'impression de vivre une espèce d'euphorie, mais pour la troisième fois, quoi.
On nous rend nos pouvoirs. Ouais.
Oui, oui. Et pour combien de temps? Ça rebaissera un moment, puis ça remontera. La question, vous savez, c'est la courbe. C'est les plus bas sont de plus en plus hauts. C'est aussi ça l'idée.
C'est aussi ça l'idée.
Bon, on verra si ça continue, si ça se confirme encore. On est obligé quand même d'utiliser tous les termes de prudence. Mais voilà, il se trouve que là, on est sur un train extrêmement haussier en tout cas. Et alors, selon Cathy Wood, qui est un peu la papesse de l'investissement dans la tech aux États-Unis, selon Cathy Wood, la hausse des cryptos, la fin de la guerre de l'administration américaine contre l'écosystème crypto, ça va doper l'économie américaine. Carrément doper l'économie américaine, qui dépend surtout de la consommation. Enfin, le consommateur américain, il n'a pas attendu que Bitcoin monte pour consommer, en l'occurrence, Owen.
Non, c'est vrai, mais alors on voit énormément de grosses personnalités qui prennent la parole en ce moment en vous disant où va aller Bitcoin, en vous disant ce qui va se passer. Encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais on sait très bien que quand il y a cet engouement, on va avoir un intérêt assez fort qui va se porter vers ces actifs et ça va capter encore plus de valeur. Après, on a toujours la double lecture. C'est également quelqu'un qui gère des actifs. C'est également quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cette économie de crypto vienne doper les États-Unis. Oui. C'est très compliqué de répondre. Tout ce que l'on sait, c'est que le particulier et les gens, de manière générale, sont beaucoup plus tournés vers l'investissement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Notamment après le Covid, beaucoup de gens se sont posés des questions. Il y a des particuliers, et donc le retail, qui s'intéresse encore plus à ça. Donc naturellement, ça peut capter des capitaux. Et si ces capitaux dorment sur des plateformes aux États-Unis, ça peut venir booster plein de choses, notamment les revenus financiers et tout ce qui va se passer. Maintenant, faire ce genre de prédiction avec autant de précision et sans visibilité, parce qu'on n'en a jamais vraiment en crypto, hein, c'est ce qui nous rejoint sur ce plateau. Toujours beaucoup de conviction et très peu de certitude. Mais c'est ce qui fait que j'aurais pas pris un pari aussi précis.
Non, bah, elle dit clairement des choses qui vont dans son sens. Et surtout, moi, je recommande de faire quand même très attention à des espèces d'annonces prophétiques qui attribuent à Bitcoin des choses pour lesquelles il n'a pas du tout été créé. C'est-à-dire quand j'entends Bitcoin va doper l'économie américaine, ou même à l'inverse, hein, Bitcoin va permettre la croissance ici, la décroissance là, Bitcoin va réduire les inégalités, sauver la planète, etc. Il faut vraiment faire attention. Bitcoin a été créé pour préserver la liberté d'échange économique, pour que chacun puisse détenir de l'argent numérique en propre. Franchement, c'est déjà beaucoup. Et donc, il ne faut pas attendre de Bitcoin qu'il ait des conséquences qui n'ont rien à voir avec son objectif premier.
Vos pros des cryptos, c'est chaque vendredi sur BFM Business, alors en direct à 15h et bien sûr sur la chaîne YouTube BFM Crypto, à laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner. On a beaucoup parlé des fondamentaux, là, de ce qui peut expliquer fondamentalement la remontée des cryptos et notamment du Bitcoin, qui est devenu cette semaine le Bitcoin le 7e plus gros actif au monde par la capitalisation. Il a doublé Saudi Aramco, c'est quand même le plus gros groupe pétrolier au monde, Saudi Aramco, et puis le Bitcoin est passé devant l'argent aussi. 7e plus gros actif au monde. Quel support ont boosté cette performance? Enfin, c'est passé par les ETF, par quel type de support et d'investisseurs aussi d'ailleurs, Owen? Est-ce qu'on a des données là-dessus?
Le plus important, et ça c'est quelque chose sur lequel je trouve on ne met pas suffisamment le doigt dessus, parce qu'on est dans une phase où c'est un peu inquantifiable et chacun essaye de dire qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette augmentation assez folle. Ce que l'on sait, et ce qui selon moi est le plus gros support qui pousse Bitcoin aujourd'hui, c'est pas quelque chose de forcément positif, mais c'est surtout le retrait d'une charge négative. Il y avait une incertitude, une manque de visibilité folle sur ce que allaient permettre les États-Unis au projet crypto et sur la régulation à venir du Bitcoin et d'autres actifs. C'est surtout ça qui, pour moi, vient supporter et pousser son prix à la hausse et permet aux investisseurs de se projeter, d'investir beaucoup plus et de parier sur ce type d'actifs parce que ça y est, on a un vent favorable et même si les promesses électorales restent des promesses pour l'instant, je le rappelle quand même, on va avoir beaucoup moins, ça va être beaucoup plus compliqué de se dresser contre les crypto-monnaies aux États-Unis. D'ailleurs, on a Donald Trump qui a annoncé virer dès le premier jour Gary Gensler, le chairman de la SEC. Il ne peut pas le faire légalement. Par contre, quand on n'est plus désiré par le président des États-Unis, on commence à avoir certaines choses qui s'alignent et c'est peut-être le bon moment de laisser sa place à quelqu'un d'un peu plus pro-crypto. Donc pour moi, c'est vraiment la chose qui vient booster et surtout les institutions qui commençaient à se positionner depuis les ETF et on va en parler des ETF, puisque ça a été le plus gros coup de BlackRock. Hein. Leur ETF surpasse, enfin, bien plus que leur ETF basé sur l'or, qui a plus de 20 ans, en quelques mois. Il y en a chez Vanguard qui se posent des questions et qui devraient peut-être...
Ils ont plus d'encours maintenant chez BlackRock sur Bitcoin que sur l'or.
Tout à fait.
Ah oui.
En quelques mois. Et rappelons qu'il y a un autre gros gestionnaire d'actifs que tout le monde regarde en disant il serait temps que vous aussi vous lanciez votre ETF, hein, et qui était pour l'instant fermé aux crypto-monnaies. Ça va devenir compliqué de justifier leur position vu les performances que BlackRock sont en train de faire. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a eu une entrée des institutions et surtout des résultats qui prouvent que les institutions ont bien fait de se positionner, et ensuite un climat qui change et qui semble aller en direction de cette prise de position. Pour moi, c'est ça le gros support qui tire les crypto-monnaies.
Alors, jusqu'où ça ira? Cette question, tiens, vous réagissez, vous nous interpellez régulièrement sur le fil X BFM Crypto. Il s'appelle Baptiste et il nous demande si le Bitcoin, qui aujourd'hui donc est le 7e plus gros actif au monde, pourrait un jour devenir le 2e juste derrière l'or. C'est la question que Baptiste nous a envoyée. On va rebondir sur votre question, Baptiste. On va en faire une question crypto qui claque. La question crypto qui claque cette semaine. Oui, parce que chaque semaine, on pose une question un petit peu embarrassante. En tout cas, une question qui parle des choses fondamentales et importantes. Claire et Owen, êtes-vous prêts?
On est prêt.
La question cette semaine, la voici. Le Bitcoin deviendra-t-il un jour aussi gros que l'or? Aussi gros que l'or par la capitalisation? Dépassera-t-il l'or? Deux options. Oui, évidemment. Deuxième option. Non, impossible. Vous êtes nombreux d'ailleurs depuis ce matin à participer, à voter sur le Félix BFM Bourse. À nous laisser quelques-uns d'entre vous vos commentaires aussi. N'hésitez pas à nous les laisser, à nous les délivrer, vos commentaires. On essaie de rebondir dessus chaque semaine. Claire, Owen, le Bitcoin dépassera-t-il l'or par la capitalisation un jour? Claire.
Évidemment ou impossible, hein, parce que c'est binaire. Hein.
Ah, c'est binaire. Oui, oui ou non?
Un jour, oui.
Owen?
C'est dur, c'est dur. Je pense qu'il en a le potentiel, mais je ne veux pas me positionner sur quelque chose de binaire, car pour moi, il pourrait se rapprocher de l'or sans pour autant le dépasser. Ils ont des fonctions et une proposition de valeur si différentes, mais en tout cas, il est bien parti pour.
Il y a du chemin encore, hein, puisque aujourd'hui, alors même si le Bitcoin a...
Fois 10.
Voilà, il reste...
Très
voilà.
Peu de chemin.
Exactement.
Attendez, pour Bitcoin, non significatif. Pour ce qu'il a déjà fait, à l'échelle de ce qu'il a traversé, faire un x10, est-ce qu'il en est capable? C'est à chaque fois que j'ai parié contre ce truc, m'en suis voulu.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin a une capitalisation, même s'il monte,
ça, hein,
10 fois inférieur à celle de l'or,
je crois, aujourd'hui.
Mais pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est rien. 10 fois, c'est rien.
Bah, aujourd'hui, oui, parce que plus il est gros, de par sa masse et de par sa vélocité, plus c'est un énorme capital à aller chercher. Donc, ce n'est pas rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle des crypto-monnaies et de ce qu'on connaît du Bitcoin, un multiple de fois 10, ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable. C'est comme certaines personnes qui disent que vit Bitcoin aujourd'hui en 2024, c'est complètement dingue, il est passé de 50, 60 000 dollars à 90. Non, c'était dingue en 2021, quand il est passé de 3 000 à 60. Non, c'était dingue en 2017, quand il est passé de 500 dollars à 20 000 dollars. Et à ce moment-là, c'était déjà plus vraiment dingue par rapport aux performances du passé.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Owen, c'est un énorme chemin, c'est pour ça que moi je pense qu'il y arrivera, mais que ça va prendre beaucoup de temps. Parce que faire x10 aujourd'hui, c'est pas comme faire x10 en 2012 ou 2013, où effectivement c'était commun. Aujourd'hui, Bitcoin a quand même beaucoup mûri, a attiré beaucoup de capitaux. Et donc, on l'a vu par exemple cette semaine, il a pris 10% en une journée. C'était une actualité énorme. Je veux dire, tout le monde regardait le cours du Bitcoin, les grands médias en ont parlé. Donc c'est quand même assez rare qu'ils prennent 10%. Donc là, on parle de faire un x10, je pense que ça ne va pas arriver tout de suite non plus.
Et les cryptos en général pourraient atteindre, donc au-delà du Bitcoin, hein, toutes les cryptos, le marché crypto en capitalisation pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars en 2026. Donc dans 2 ans à peine, ça c'est la prévision des analystes un peu surexcités de Standard Chartered. Mais voilà, pourquoi pas, x3 en 2 ans, c'est jouable, c'est facile pour l'univers.
Totalement.
Ouais. Bon, c'est vos pros des cryptos chaque semaine. Alors on continue d'anticiper l'avenir et... Attendez, Owen est clair. Notre réalisateur Chris en régie veut aussi réagir. Chris.
Alors moi, ma question, elle est plus simple. Hein. J'ai plein de potes qui se mordent les doigts de ne pas avoir acheté votre bitcoin là. Du coup, quel est votre message à ceux qui regrettent de ne pas en avoir et qui risquent forcément d'investir au plus haut?
Ah, très très bonne question.
Très très bonne question de bull run, ça.
C'est vraiment une question de bull run, exactement.
30 secondes chacun, face caméra. Votre message à ceux qui regrettent de ne pas avoir des cryptos aujourd'hui, mais qui risquent d'investir s'ils investissent peut-être au plus haut.
À l'honneur.
Ouais. Bon, déjà, moi je dirais que c'est pas grave, parce que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de gens dans votre cas. Et je pense qu'il ne faut pas réagir de manière impulsive. Il ne faut pas se dire, voilà, je vais acheter plein de bitcoins maintenant parce que je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour réfléchir un peu plus à deux choses. D'une part, c'est comment vous gérez votre argent. Comment vous gérez votre patrimoine aujourd'hui? Est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que vous n'en prenez pas? C'est quoi votre appétit au risque? Est-ce que vous avez envie d'acheter du Bitcoin? Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire un x100 d'ici la semaine prochaine? Ça n'arrivera pas. Mais ça peut être un actif de diversification. Et la deuxième chose, c'est que si vous vous intéressez à Bitcoin, ça vaut le coup de creuser aussi. Et ça vaut le coup d'aller vous renseigner sur ce que vous avez envie d'acheter avant de faire l'acte d'achat.
Elle s'est prêtée au jeu, la première. C'est pas sympa de lui avoir laissé la patate chaude en premier à Claire Owen. Non, il est galant. Bon, effectivement.
Ouais, je suis chaud.
Pareil, Owen. 45 secondes face caméra pour ceux qui hésitent à investir aujourd'hui pour la première fois en crypto.
La première chose à avoir en tête, c'est que des opportunités, il y en avait hier, mais qu'il y en aura aussi demain. Donc la précipitation, c'est un sentiment qui va vous faire prendre de mauvaises décisions et il faut vraiment s'en éloigner. La deuxième chose, c'est que la première valeur que vous devez investir, c'est votre temps. Si vous ne commencez pas par une phase éducative, vous allez simplement perdre plus que les autres. Ensuite, on a l'impression que c'est dur d'acheter des crypto-monnaies, mais quand on est dans un moment où tout monte, c'est également très dur de savoir en vendre. Et si on n'a pas de stratégie, si on ne s'est pas mis d'objectif, si on n'a pas été capable de prendre un petit peu de recul, on va faire de très grosses erreurs. Pour terminer, la finance, ce n'est pas binaire. C'est pas j'achète ou je vends. C'est pas tout maintenant ou alors je vends tout, j'achète tout. Pas forcément. Vous pouvez acheter petit à petit, vous pouvez acheter de petits montants, vous pouvez prendre le temps de faire votre investissement et de continuer à vous éduquer en parallèle de vos premiers pas. Dites-vous simplement que c'est quelque chose de complexe, donc il va vous falloir également découvrir certains outils pour rentrer dans ce monde. Et quand vous serez suffisamment familier et que vous aurez bien compris l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, car c'est la seule poche de capital que vous pouvez investir sur les crypto-monnaies, à ce moment-là, vous allez peut-être découvrir cet actif qui, pour le coup, est atypique.
Bon, et alors Owen a de nouveaux abonnés, plein de néophytes qui s'intéressent d'un coup aux crypto. Vous aussi, Claire, chez Deblog, vous voyez effectivement un nouvel afflux. Retail is coming, là, ça y est.
Oui, on voit deux choses. Déjà, on voit plus de nouveaux utilisateurs, donc plus d'inscriptions. Mais même chez les utilisateurs qui sont déjà là, on voit effectivement nettement plus de volume, à la fois à l'achat, mais aussi à la vente.
Oui, on parle beaucoup de Bitcoin et les grands médias parlent essentiellement de Bitcoin. Sa dominance s'est encore accrue là, avec ses récents records ou finalement les autres cryptos suivent?
Alors, ça dépend, Guillaume, si vous parlez de l'élection de Donald Trump, ce qu'on a observé, c'est d'abord une légère chute de la dominance. Alors, pas beaucoup, hein, mais effectivement, on est allé toucher les 55%. Et puis là, on se rapproche petit à petit de nouveau des 60%. On reste quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Ce qu'il faut voir, c'est que la dominance de Bitcoin n'a fait que se renforcer depuis janvier. Et ça, c'est assez exceptionnel. Hein. Quand on regarde les cycles précédents, ce qu'on observait plus tôt, c'était effectivement au début du cycle, après le halving, une légère augmentation de cette dominance, mais pas dans les proportions qu'on voit aujourd'hui. Et ensuite, souvent, ce qu'on n'observe pas encore pour l'instant, c'est une chute de cette dominance, c'est-à-dire une capitalisation qui augmente pour les autres crypto-monnaies. Et là, Bitcoin, finalement, même s'il se porte bien, il finit par diminuer en proportion des autres. On n'en est pas encore là, mais je suis curieuse de voir si ce cycle va répéter les mouvements qu'on a eu dans les cycles précédents.
Effectivement. Et alors, Elon Musk débarque à Washington, quand même. Incroyable. Elon Musk va devenir le Doge, le boss du Doge, le Department of Government Efficiency. Alors, incroyable. Le Doge, comme la crypto Dogecoin qu'il soutient depuis maintenant plusieurs années. Voilà, donc il fera partie de cette administration américaine. Il sera jugé parti. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un conflit d'intérêt là avec Elon Musk quand même.
Et même si c'est pas un conflit d'intérêt, c'est très particulier,
c'est
on en parlait.
C'est gênant, ouais, quand même.
Alors, est-ce que c'est vrai que ça va avoir ce logo-là, que ce sera la mascotte du vrai département? On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'il a déjà fait énormément de blagues sur le Dogecoin. Ouais. Dès qu'il en parle, il fait monter le prix. Le Dogecoin étant le même coin, la mascotte des crypto-monnaies, la blague la plus rentable du 21e siècle. Et là, on parle du département de l'efficacité aux États-Unis. Si on commence à lui mettre un logo de chien qui... Je préfère pas me prononcer, mais ouais, y a quelque chose qui me gêne terriblement dans les images qu'on affiche là, en espérant que ce soit réellement pas ça le logo qu'ils vont mettre officiellement pour ce département.
Oui, les images, vous les voyez, elles sont derrière moi. Je me baisse un petit peu pour que vous les voyez bien. Ce Shiba, le Dogecoin, voilà. Alors, en fait, le logo que Elon Musk a tweeté de ce département de l'efficacité fédérale, de l'efficacité gouvernementale, le logo, il a pris celui du Dogecoin. Voilà, il s'est pas embarrassé.
La culture Internet poussée à son paroxysme.
C'est incroyable.
Mais à la tête des États-Unis, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression de voir des adolescents qui trollent et qui arrivent à la tête des États-Unis. Alors, je suis quand même curieuse de voir quelle va être l'implication d'Elon Musk dans ce département, parce que Elon Musk, il a quand même plusieurs boîtes à gérer, a priori. Donc, je sais pas s'il va être vraiment impliqué très opérationnellement dans ce département-là. On peut aussi se poser la question du niveau de manipulation de prix, quand même, que cette annonce peut avoir sur le Dogecoin. Alors, ça a pas l'air de tellement les embêter. Mais c'est vrai que ça va être une question, d'autant plus que le cadre réglementaire spécifique aux cryptos devrait être créé sous le mandat de Donald Trump dans les prochains mois.
Oui, oui. Dogecoin qui fait 400% sur 10 jours.
Ah oui.
Ouais, il est passé de 10 centimes pièce à 40 centimes unité.
Mais même la hausse du Bitcoin, il y trouve son intérêt, Elon Musk.
Mais tous les mêmes coins.
Voilà. C'est Tesla a en trésorerie des Bitcoins, en l'occurrence.
Il y a quelques actifs qui vont... Beaucoup ne surperforment pas Bitcoin, mais il y en a quelques-uns qui explosent les compteurs. Les mêmes coins, de fameuse culture Internet qui plaît beaucoup à la communauté, notamment aux communautés Reddit, etc. Mais aussi les tokens liés à l'intelligence artificielle, les tokens liés à la tokenisation d'actifs réels. Bref, deux, trois narratifs qui sont très suivis.
Oui, effectivement. Tiens, MicroStrategy qui a vu la valeur des cryptos, notamment du Bitcoin, aussi s'envole sur les marchés financiers cette semaine. Ça a été assez incroyable, effectivement. MicroStrategy qui aura vécu l'un des plus longs bear markets de l'histoire boursière. Le titre en bourse a récupéré, là, cette semaine, les niveaux qu'il avait quasiment en 2000.
Ah oui. Pendant la bulle d'Internet.
Effectivement.
En espérant que ça dure cette fois.
Exactement. Dogecoin, dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer, vu qu'en plus la réglementation sera plus favorable aux cryptos, est-ce qu'on peut imaginer un jour un ETF Dogecoin? Puisque tout est complètement hallucinant dans ce qu'on voit aux États-Unis. C'est un Pixar, mais dans la vraie vie. Est-ce que le Dogecoin aura droit à son ETF?
Alors, théoriquement, pourquoi pas? Je pense que ce que ça veut dire, c'est que les régulateurs vont se pencher vraiment sur ce qui se passe sur le Dogecoin. Et typiquement, ce qu'on a vu tout à l'heure avec la potentielle manipulation de marché de la part du président américain et d'Elon Musk, c'est des choses qui vont être difficilement compatibles avec des ETF Dogecoin. Donc, il y a pas mal de questions à se poser, mais rien n'est impossible.
Gary Gensler, il s'en remet jamais. ETF Doge, Gary Gensler, il s'en remet jamais. C'est terminé.
Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, on aurait pu faire une demi-heure de plus d'émission. Il y a plein de questions qu'on a trop sautées, trappées. Ben, vous reviendrez, évidemment. C'est chaque vendredi, les pros des cryptos retrouvés sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Owen Simonin, donc plus de 700 000 abonnés à votre chaîne Asher désormais. Pas mal. Et à la tête de Meria, Claire Balva, VP Stratégie de Deux Blocs. Merci beaucoup également.
Merci,
Claire.
Bien.
Et bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.